Chapitre 12. La cinquième flèche. Débarrassez ma table et laissez-nous. La voix du ministre des Affaires étrangères est nerveuse et cassante comme son geste. Le jeune Wilkie, mandé en hâte par le patron et flairant du neuf à la case, aide l'huissier de service à enlever précipitamment les bijoux exotiques, les boîtes en coquillages qui encombrent le bureau de Valfon. Prenez garde, monsieur Wilkie. Le colonel a bien recommandé d'attendre qu'il fût là pour toucher à ses affaires, surtout à ce grand rouleau de feuilles de latanier. Enlevez ça, je vous dis, on n'a plus besoin de vous, interrompt le ministre, arrachant au solennel du perron, depuis 35 ans huissier à chaîne aux affaires étrangères, la longue et mystérieuse bourriche que le bonhomme ose à peine toucher, et la jetant sans précaution sur le divan d'étoffe persane. Sitôt la porte refermée, Wilkie demande à son beau-père « C'est donc le colonel Moulton qui était là? Avait-il avec lui la petite reine des nains ?»« Non, mais elle vient déjeuner. Nous avons même du monde à l'occasion, les Marc Javel et leur nièce, les filles de l'ambassadeur d'Angleterre, Madame Harris, l'américaine. Tu penses si c'est heureux ma scène de ce matin avec ta mère ?» Le ministre, après des allées et venues en saccade dans tous les sens de son cabinet, s'est arrêté, le front contre la vitre double, à regarder tournoyer les petites plumes blanches de l'hiver sur l'immense cour déserte et comme agrandie par le silence de cette matinée du dimanche. Sans se retourner, il jette par-dessus son épaule des phrases qu'il mâchonne avec un bout de gros cigare et que ramasse du mieux qu'il peut son ingénieux chef de cabinet. « Cette femme est folle, folle ! J'ai entendu des reproches, des menaces que je n'ai pas voulu comprendre. « D'abord, si c'est du scandale qu'elle cherche, j'ai de quoi lui répondre. » Ses lettres à ce jeune homme, à ce Raymond Eudeline, seraient pour la couvrir de honte et de ridicule. Entre deux phrases ministérielles, Wilkie glisse, mordillant sa lèvre mince. « Oh, elle parle, mais elle ne fera rien. » Pourtant, cette fuite, c'est déjà du scandale, car elle est partie, n'est-ce pas ? Au vu, au su de tout le monde, elle a quitté la maison de son mari, de ses enfants. Dans son animation, l'orateur se retourne face à l'assemblée et, se trouvant debout devant sa table, en profite pour frapper dessus à poing serré, comme sur le bois creux de la tribune, la bouche pleine de vocables menteurs et déclamatoires. « Famille, devoir, maternité. » « Regarde ça, patron !» Le chef de cabinet a posé sur le bureau un prospectus à couverture bleue et cuissonné d'une croix avec ce titre « Annales de l'œuvre des enfants malades, direction du docteur Kassagnosov » et ce verset de la Bible en exergue « Qui enverrai-je? Me voici, envoyez-moi. » À la muette et dure interrogation de son ministre, le jeune homme se hâte de répondre. « Si ma mère est partie, voilà où elle est, n'en doute pas, avec le docteur Sophie Kassagnosov, une bonne toquée qui s'en va par le monde, ramassant et soignant tous les petits larveux. Il est malin, le Raymond Eudeline, aussi malin que sa jolie petite sœur. Quand il a vu tourner au crampon sa liaison mondaine, il a donné à cette nature exaltée et religieuse, à l'âme passionnée d'une Portugaise, une direction toute humanitaire. Ma mère ira-t-elle jusqu'au bout de sa tentative ? Elle en est capable, mais à condition d'emmener Florence avec elle. Toute seule, je ne le crois pas. » Occupé à feuilleter le cahier bleu de l'œuvre, Valfon jette un regard de côté et pas bon. « Emmener Florence, pourquoi faire ? Elle n'est pas dégoûtée de la vie, elle !» Et tout haut, soulignant certains passages d'un mauvais rire, il lit et énumère les conditions de recrutement pour les postulantes. Au point de vue moral, une nature énergique. Une facilité exceptionnelle à se tirer d'embarras. Matin. Pas de sensualité, pas de nervosisme. Il n'est exigé de dot que des personnes pouvant en apporter. Ta mère n'a pas dû en apporter une bien lourde, ajoute-t-il narquoisement. On ne m'en a rien dit, patron. Mauglas pourrait nous le savoir, car c'est de lui que je tiens tous mes renseignements. Depuis que vous l'avez brûlé aux deux préfectures de Paris et de Pétersbourg, il travaille dans le civil, traite de gré à gré, et je me demande quelle mésaventure a rabattu sa crête insolente et rogné ses ergots. Il s'est fait une tête de marguillier, glabre de joues et de menton, ne quitte jamais un bonnet de soie noire enfoncé jusqu'aux sourcils, et pour achever la transformation, n'écrit plus sur les danses antiques, mais fait annoncer chez Mame un livre de poésie, Cloches et carillons, une merveille. Il faut l'entendre dire, ce livre c'est pour ma gloire, le mouchardage pour faire manger les vieux. Car ce drôle de corps a un père et une mère à qui il donne la béquée très régulièrement. Souteneur de famille, comme nous appelions le jeune de Ligne à Louis le Grand. Très fier de son titre, il essayait de faire les mamans avec ça au parloir. Oh, celui-là, par exemple, il me le paiera, le vilain tour qu'il nous joue. Ma mère le gênait sûrement, trop de Schumann et de sentiments à la clé, et pendant qu'il la rejette dans le dispensaire de cette bonne doctoresse, lui-même se met en ménage avec une très jolie personne, la fille de ce vieux fou qui dirige la scénographie de la chambre. Pas commode le père Isoard, garde s'il apprend que sa demoiselle ne se tient pas. Et je connais quelqu'un qui se chargera de le renseigner. En attendant, ce matin... Valfond, anxieux, effile un par un les poils gris de sa moustache tombante. Ni ta mère, ni ta sœur, pas de femme pour mettre en face de moi à ce déjeuner. Wilkie propose timidement. Je pourrais encore une fois essayer d'entrer chez Florence. Garde-t'en bien, dit Valfond très vite, comme s'il redoutait une explication entre le frère et la sœur. Tu la connais, elle se prétend malade, ne veut pas te recevoir. Elle ne te recevra pas. La figure finaude du jeune vieux s'aiguise. J'ai une idée, patron. Si j'allais à la marine, prévenir Jeannine Briand. Elles sont si amies, elles pourraient peut-être vous la décrocher. Essaie, mais vite, il n'est que temps, murmure le ministre, se jetant de tout son long sur le divan de soie, où son petit corps rabougri, brûlé de passion et de fatigue nerveuse, ne tient pas plus en place que l'exotique rouleau de feuilles de latanier. Moins d'une heure après, Mademoiselle Jeannine, la nièce du ministre de la Marine, en toilette de déjeuner, costume tailleur, grand gasbourou à plumes, grattait à la porte de Flo-Flo avec la cornaline d'une de ses bagues. La femme de chambre, dans l'entrebâillement d'une tenture, s'efforçait encore de résister. « Si Mademoiselle Jeannine savait, si elle pouvait se douter dans quel état !» Jeannine poussa la porte, renvoya la camérière et s'approcha du grand lit de dentelle blanc et rose où elle croyait Florence prostrée dans un de ces accès d'indolence et de bouderie qui la prenait parfois et la gardait tout un jour, couchée et somnolente, oubliant l'existence derrière ses rideaux tirés. « Où es-tu donc ?» demanda-t-elle, stupéfaite de voir le lit désert et les couvertures rejetées. Du fond de son cabinet de toilette, la voix de Florence répondit, traînante et triste, comme déchirée. « C'est toi, Jeanne? Tu es seule? Approche que je te parle. » Jeannine vint contre la porte. « Mais qu'est-ce qui se passe ici? On dit que ta mère est partie? Sors donc, Florence, que je te vois. Si tu me voyais, tu comprendrais tout. Je ne veux pas. » L'autre se souvint tout à coup de leur conversation dans le jardin de l'ambassade. Malheureuse, qu'as-tu fait? Ouvre, mais ouvre donc! Elle poussa la porte qui céda presque tout de suite et vit devant elle une espèce d'enfant de cœur, pâle et bouffi, aux yeux fiévreux, aux cheveux ras sur une tête toute ronde, la taille sanglée dans un large peignoir carmélite serré d'une cordelière. « Oh, ma pauvre Flo-Flo, tes beaux cheveux !» Dans le saisissement que lui causait cette apparition, il y avait de l'envie de rire et de pleurer, tellement singulière était cette petite boule mal tondue, aux traits réguliers et fins, qui faisait songer à Wilkie autant qu'à sa sœur. Immobile, le regard à terre, Florence murmurait. « Tu vois, j'ai tout coupé, et il y en avait, et j'y allais d'une rage !» Mais tout de même, le cœur m'a manqué pour exécuter tout ce que je m'étais promis, me défigurer, tailler en pleine peau. Ma main a tremblé. Et elle ajouta bien bas, comme pour elle-même, « Enfin, le misérable ne pourra toujours pas me montrer, jouir de son triomphe, il n'entendra pas dire de sa proie la plus belle toison de Paris. » Jeannine eut un cri d'épouvante. « Ah, mon Dieu ! Ah, pauvre chérie, c'est donc vrai? C'est donc pour ça ? » Elle avait pris son amie dans ses bras et, l'asseyant à côté d'elle, au bord du petit lit pliant que Madame Valfond installait chaque soir dans la chambre de sa fille, « Voyons, ma Flo, dit-elle, raconte-moi, je veux savoir. Ce n'est pas possible qu'il ait osé une lâcheté pareille. » Il a osé, sois-en sûre, ricana Florence Marquette avec un tour de bouche qui semblait lui venir de son dompteur. Jeanine continuait un interrogatoire entrecoupé d'exclamations. Est-ce possible? Quelle lettre abominable! Mais je croyais que ta mère couchait près de toi toutes les nuits. Pas toujours, tu vois, son couvre-pied n'est pas encore défait. Florence montrait le lit sur lequel elle était assise et reprit. « Ma pauvre mère, depuis qu'elle a rencontré cette Sophie Casta, le médecin russe ne s'occupe que de ses œuvres de petits malades. Tout le temps dehors, sa maison, sa fille ne comptent plus pour elle. Sa vie se passe en réunion, en conférence. Tu penses si Valfond l'a guettée, si je le sentais venir avec ses yeux de travers qui ne regardent jamais ce qu'il vise ? J'avertis ma mère bien souvent. « Maman, j'ai peur !» Mais elle me l'avait entendu dire tant de fois. Un court silence, puis toute pâle et les dents serrées. « Enfin, cette nuit, il s'est trouvé qu'on donnait une grande fête à Versailles, au profit de l'œuvre, tu le sais bien, puisque ta tante Marc devait y aller. » Le grand chapeau à plumes de Jeanine fit signe très vite. « Oui, oui !» Mais, à cet endroit du récit, elle ne l'eut interrompue ni d'une parole ni d'un souffle. Maman avait dit à sa négresse de veiller là tout près. Obligée de revenir en voiture, elle savait ne rentrer qu'au petit matin. La négresse est-elle restée ou l'a-t-il expédiée? Peut-être s'était-elle endormie tout simplement. Et avec son rire canaille de tout à l'heure, tordant en coin sa belle bouche, la jeune fille ajouta d'une voix morne « Je n'ai pas dû crier bien fort, va, tu me connais, fière mais lâche, tellement molle. Et puis, il y a si longtemps qu'il me poursuit, que sa passion me brûle avec les mêmes mots, que son haleine, ses mains, me cherchent aux mêmes places. On se lasse à la fin, et l'habitude vous vient même de votre dégoût. Tais-toi, malheureuse, et ta mère. C'est de sa faute, il ne fallait pas me quitter. » Mais ce cri de colère échappé, Florence reprit avec douceur. « Ah, la pauvre maman! Sa rentrée ce matin, quand elle m'a trouvée à moitié morte sur mon lit, la tête rase, tous mes cheveux cisaillés près de moi. Une belle gerbe noire que cela devait faire. Elle a compris tout de suite, a bondi chez Valfond, et après une scène horrible, dont ne m'arrivaient que des éclats, tous deux sont entrés dans ma chambre, elle délirante, une clameur folle toujours la même. « Je m'en vais! Je m'en vais !» Lui, terreux, mort de peur, toute la figure en bas, la suppliant. « Je vous en conjure, évitons le scandale, au nom de vos enfants. » J'ai retenu le mot, dans sa bouche, il m'a paru sublime. « À présent, que se passe-t-il? Qu'allons-nous devenir? Ma mère est-elle partie réellement ? Va-t-elle accompagner son médecin russe dans l'Inde? J'aurais pu la suivre, m'associer à cette œuvre admirable. Mais je suis trop veule, je n'aime plus rien, je n'ai foi en rien. Puis, regarde-moi, où veux-tu que j'aille avec cette tête de singe que je me suis faite? Je n'ai qu'à rester dans mon coin, à cacher ma laideur en punition de ma honte. » Ta laideur? Sérieusement, crois-tu t'être en laidie? Jeanine prenait entre ses mains la petite tête tondue et l'enveloppait d'un sourire. « Eh bien, moi, je t'assure que tu es très jolie comme cela. Tu me rappelles ce petit prince indien qui est venu l'autre année, le fils de la reine d'Oud. » Les grands yeux moroses de Florence se noyèrent de larmes. « C'est affreux ce que tu me dis là. Pourquoi, chérie? Parce que j'ai voulu me punir, perdre cette beauté que je n'ai pas su défendre. » « Je n'y suis donc pas parvenue, mon Dieu !» Jamais Jeanine Briand n'oublia l'énergie singulière dont cette fille, insignifiante d'habitude, aux gestes las et retombants, avait martelé ses paroles. Mais sur le moment, la futile petite parisienne, la nièce de Marc Javel, aussi envolée et légère qu'une des plumes de son chapeau, se préoccupait surtout de la promesse faite à Wilkie d'amener sa sœur au déjeuner. Écoute, ma Flo, je me trompe peut-être, mais il y a un moyen bien simple de savoir si tu t'es ou non défiguré. Vous avez du monde ce matin. Habille-toi et viens te mettre à table, tu liras la vérité dans tous les yeux. » Florence réfléchit une seconde, puis se levant d'un brusque sursaut. « Prends garde, je veux bien y venir à ce déjeuner. Essayez de vivre comme une créature naturelle après l'horreur de cette nuit. C'est pour me rendre compte, comme tu dis. Mais si j'ai manqué mon coup, si je ne suis pas parvenue à lui donner honte de moi, s'il peut se parer de ma beauté outragée, humiliée, je te jure que je recommencerai et que, cette fois, je ne me manquerai pas. » Jeanine allait répondre. Elle l'arrêta d'un geste de sa petite main d'orientale, courte et grasse. « Un détail, mais très important. Pour faire honneur à Sir Moulton et à ces demoiselles de l'ambassade, on déjeune à l'anglaise, les dames en chapeau. Tu préviendras Valfon que moi je déjeune en cheveux, ce qui me reste de cheveux. Il faut qu'on voie. » Quand elle entra au bras de Valfon dans la haute salle à manger de blanches boiseries anciennes, au rez-de-chaussée du ministère, ce ne fut qu'un cri d'admiration pour la jolie petite tête garçonnière, érigée toute pâle au-dessus d'épaules splendides et d'un corsage de gaze ourlé de fourrure brune. Les yeux luisaient d'un éclat fiévreux et dur, vraiment extraordinaire. Sa bouche mourait de languitude et de dégoût. En s'asseyant, elle inventa je ne sais quel accident, dû à une maladresse de femme de chambre, toute sa chevelure brûlée par l'explosion d'une lampe à essence pendant qu'on la coiffait. Du départ de sa mère, pas un mot. Pourtant, il n'y avait pas un des convives qui ne sut la nouvelle et dont la curiosité ne se trahit par un coin d'œil allumé et fureteur. « Ah, très illustre colonel Moulton, émule de Stanley, de Speke, de Barker, carabine à éléphant sans rival, quel mauvais public vous aviez ce matin de décembre pour vos merveilleux récits de chasse à l'hippopotame au bord du lac Tanganyika. Et pour la présentation de cette petite reine des nains qu'on avait pu faire asseoir à table et qui rôdait frileusement autour de votre chaise, dans une gandoura d'or vert, avec les yeux hébétés et ronds, les pommettes microscopiques et terreuses d'une grande poupée tombée dans le feu et débarbouillée au beurre. Elle était amusante cependant, surtout racontée par vous, devant cette nappe étincelante de cristaux et de vaisselle plate, sous ce ciel parisien rempli de neige. Amusante et jolie, la passionnette de cette jeune princesse, éprise du pâle étranger massacreur de monstres et fuyant avec lui le royaume des pygmées. Mais à côté de votre histoire, qu'il faisait semblant d'écouter, tous ces gens-là, mon cher Moulton, cherchaient à en deviner une autre, bien plus intéressante et mystérieuse, une histoire de la grande forêt parisienne qui cache parfois si bien ses victimes. Après le déjeuner, très bavard, très long, ces messieurs étaient montés chez le ministre pour fumer en regardant l'exposition des cadeaux, les souvenirs de la Terra Incognita, rapporté par le colonel à son vieil ami Valfon, qu'il connaissait depuis 20 ans, depuis Bordeaux, le cirque et le journal Le Galoubet. « Et ceci, colonel Moulton, qu'est-ce que c'est ?» Après une infinité de bibelots bizarres, des colliers de pierres peintes, une cartouchière en peau de serpent, une Winchester à 32 coups, ajustée sur un affût de bois de la fabrication de Sir Moulton lui-même, il ne restait plus que le rouleau de feuilles de palmier, épaisses et nerveuses, oubliées dans les broderies du divan, et que Wilkie Marquet s'apprêtait à ouvrir, quand l'anglais s'interposa vivement. « Take care, mon cher Wilkie, c'est très dangereux. » Il lui prit le paquet des mains et, le défaisant avec minutie, en tira un faisceau de 5 longs javelots, une pomme d'ivoire à un bout, à l'autre une pointe de fer empoisonnée, défendue par un étui d'écorce dure. Quel était ce poison plus pénétrant que le curare? D'où venait-il? Personne n'aurait pu le dire, ni Stanley, ni Moulton, pas même la petite reine des pygmées qui gardait religieusement dans sa malle une boîte remplie de ses dardillons dont la moindre piqûre donnait la mort. Et quelle mort! En 5 minutes, une face de lèpre, bouffie, livide, méconnaissable. « Dites donc, Valfond, glissa le nouveau ministre de la Marine dans l'oreille de son collègue des Affaires étrangères qui tirait d'énormes et silencieuses bouffées de cigares devant le feu. « Ça ne doit pas être commode de faire de la politique dans ce pays-là. Si quelqu'un a envie de votre portefeuille, c'est vite envoyer une mauvaise flèche. » Le glabre Wilkie se mit à rire. « Mais, monsieur le ministre, nous avons des équivalents dans la société. » Avec une calomnie bien aiguisée, une lettre anonyme comme on les confectionne dans les maisons recommandées, je me charge d'empoisonner les personnes les plus saines, les plus résistantes, d'en faire les premiers sujets de l'hospice Saint-Louis. Sa figure de vieille fille méchante cligna du côté du patron, comme pour lui rappeler leur conversation de la matinée. « Je vous en prie, mon cher Valfond, dit Sir Moulton, posant les flèches une à une sur le marbre de la cheminée, après s'être assuré que leurs pointes étaient très soigneusement garanties. Voilà cinq types très divers de lettres anonymes de l'Afrique centrale que je vous engage à ne pas laisser traîner. Accrochez-les le plus tôt possible en panoplie au mur de votre billard et qu'on n'y touche plus. C'est Duperron qui s'en chargera. Vous entendez, Duperron ? » Le ministre se penchait vers l'huissier de service, occupé à fourgonner le feu. Dès que nous serons partis, « ou plutôt, non, je veux que ce soit fait devant moi. Vous attendrez que je sois revenu de l'Élysée. » Il devait s'y rendre à 4 heures avec le colonel et la petite reine des nains que la présidence désirait connaître. Encore quelques bouffées de cigares, un dernier hippopotame effondré sous les balles de Sir Moulton, puis l'on descendit au salon où les dames avaient fait asseoir au piano la petite reine tout effarée. Au milieu des fous rires qui secouaient les plumes des grands Gainsborough et la gaieté sonore, emperlée de toute cette jolie jeunesse, Valfond s'approcha de sa belle-fille, il n'avait pas encore osé lui parler, et lui demanda, tremblante et grimacier, « Tu ne viens pas avec nous à l'Élysée ?»« Non, non !» fit deux fois violemment la petite tête rase, sans qu'il obtînt d'elle un mot ni un regard. S'adressant alors à l'ami, « Jeannine, je vous la recommande, ne la quittez pas aujourd'hui » fit-il avec une expression d'angoisse bien extraordinaire chez ce politicien toujours maître de lui. Jeannine Briand, qui connaissait le pèlerin, pensa d'abord « C'est pour m'attendrir, il espère que je parlerai à ma pauvre Flo de son désespoir, de ses remords. » Elle promit cependant de rester auprès de Florence. « Il neige, c'est le temps qu'elle aime. » Si elle veut, je demanderai à l'oncle Marc sa charrette, nous irons au bois toutes les deux. Du plein air et de la fourrure, il n'y a rien de plus sain. Merci, mon enfant, murmura Valfond très ému. Jeannine n'en revenait pas. Le vrai, c'est qu'incapable de remords, la partie sensible de son être atrophiée chez lui depuis longtemps, Valfond mourait d'inquiétude et de peur. Quelles suites aurait sa folie de cette nuit ? Qu'était devenue Madame Valfond ? Que projetait la jeune fille ? Avec deux pareils toqués, on pouvait s'attendre à tout. Il craignait un scandale retentissant, un de ces éclats dont les plus hauts, les plus puissants, ne parviennent pas à s'abriter. Et en même temps, l'éventualité que sa victime lui échappa, que son triste bonheur restât sans lendemain. Quelle lui sembla longue cette réception de l'Élysée ! Par quelle bizarre analogie cette petite poupée à tête ronde et crépue, qu'on se passait en riant de main en main, le fit-elle songer tout le temps à l'apparition qu'il avait eue le matin en entrant dans la chambre au cri de la mère, de l'opulente créature jetée en travers de son lit, sa toison noire à côté d'elle ? Était-ce un présage, cette image qui revenait obstinément ? Sa belle-fille lui réservait-elle encore, ainsi qu'elle l'en avait menacé, quelque surprise d'épouvante pour le punir ? À la fin, n'y tenant plus, il fit ses excuses à la présidente. Le lendemain, précisément, il avait à la chambre une séance très chargée, une interpellation probable, les fameuses croupières à Bismarck. « Ah, ce n'est pas une sinécure d'être ministre au Quai d'Orsay !»« Compliments à vos dames, je vous prie !» dit le président de la République qui le reconduisait. Vos dames, il ne lui en restait plus qu'une, et encore, il n'était pas sûr de la retrouver. Comme toujours, en rentrant au ministère, Valfond monta d'abord dans son cabinet dont on allumait les lampes. La mélancolie de ce dimanche de neige pesait sur le grand palais désert. À peine chez lui, le ministre sonna violemment. « Éclairez-moi vite !» Et de la même intonation saccadée, étranglée, « Qui est entré ici en mon absence » demanda-t-il à l'homme de service. « Moi, monsieur le ministre, et personne autre, à moins qu'on ne soit venu par là, » ajouta le placide du perron. « Par là » signifiait la petite porte sous tenture du côté des appartements. « En y songeant, je suis sûr maintenant qu'on est venu. Comme j'entrais, j'ai vu sortir mademoiselle Florence. » Valfond sentit un souffle de mort courir sur ses tempes. « Bien, merci !» L'huissier s'en allait. Il le rappela et lui montrant les javelots à boules d'ivoire en faisceau sur la cheminée. « Duperron, vous rappelez-vous ?» Il pouvait à peine parler, tant ses lèvres étaient sèches et fiévreuses. « Vous rappelez-vous combien le colonel nous a laissé de ses flèches ? Est-ce 4 ou 5 ?»« 5 !» affirma le vieux pontife de l'antichambre. C'était bien cela, la 5e flèche manquait. Qui l'avait prise ? Pourquoi faire ? L'huissier demanda encore. « Monsieur le ministre, veut-il que nous les mettions dans le billard ?»« Non, plus tard, pas maintenant. Emportez votre lampe, je ne reste pas là. » Il avait besoin de se préparer, de se remettre. La secousse qu'il venait d'avoir, l'angoisse de ce qu'il attendait derrière cette porte. Et tandis qu'appuyé à la cheminée de ses deux mains tremblantes, dans le reflet blanc de la neige qui tourbillonnait aux vitres silencieuses, le misérable songeait avec épouvante à cette 5e flèche disparue. L'image que lui renvoyait la glace qui s'emplissait de nuit avait une pâleur livide, les joues creuses, des yeux hagards, comme il ne s'en était jamais vu. À peu près à la même heure, plein d'angoisse lui aussi, mais pour d'autres motifs, Antonin Eudeline remontait le boulevard Saint-Germain sous un simoun de neige. Il allait chez son frère, qu'il n'avait pas encore vu ni prévenu de son arrivée, comptant le surprendre en pleine vie, se rendre compte de ce qu'il y avait de vrai ou de menteur dans ce qu'on lui reprochait. Sur cette influence de femme qu'il redoutait plus que tout, ni sa mère ni sa sœur n'avaient pu le renseigner. La liaison dont Madame Eudeline était si fière avec une grande mondaine semblait finie. Du moins, Raymond n'en parlait plus, occupé d'une autre affection encore plus mystérieuse, plus absorbante et qui le gardait très loin des siens. « Je me doute, je n'en suis pas sûre, » disait la petite télégraphiste. Maman, elle, ne savait rien, certaine seulement que son Raymond ne pouvait plaire qu'à une femme de cœur et de distinction. Quelques jours auparavant, Antonin aussi l'aurait juré. Mais quel trouble à présent dans sa pauvre tête si tendre, si confiante. Comme il arrivait devant la maison de l'aîné, il trouva debout à l'entrée du couloir sa mâchoire de petit Dauguin en avant, les bras nus et marbrés de froid, ses beaux bras impériaux qui gantaient à 15 boutons, Madame Alcide et son balai opposant une défense héroïque aux assauts de la neige et du vent. « Veine, voilà Monsieur Antonin arrivé. C'est mon locataire qui va être content. Bon sang, c'est-il du vent, ça? C'est-il de la neige, ça ?» Sans perdre un coup de balai, car au jour tombant, comme d'ordinaire, l'effort de l'ennemi redoublait, Madame Alcide, s'agitant, tournoyant à lui de son couloir, donnait et demandait des nouvelles à Monsieur Antonin avec une telle véhémence qu'il avait autant de peine à placer une parole qu'à mettre un pied dans le corridor. « Vous savez que le petit marche tout seul, maintenant que Madame Sophie l'a guéri. Voilà une chose que nous n'oublierons jamais. Un enfant si chétis, qui n'avait jamais bougé de sa petite roulotte que pour aller sur l'épaule du papa. Mon pauvre homme, nous qui ne pouvions pas nous regarder sans pleurer, à l'idée de cet enfant-là, notre unique. Eh ben, le croiriez-vous, depuis que le petit va sur ses pieds, sans roulette, qu'on pourrait vivre content comme des monarques. « Alcide a pris une maladie noire. Il ne sort plus, il ne veut plus voir personne. Même les histoires de bataille qu'il racontait à son garçonnet, c'est fini. Plus un mot à tirer de lui, jamais. Ah, monsieur Antonin, vous qui êtes si bon enfant !»« elle était parvenue à fermer la porte, tout son corridor déblayé. Alors elle essuya ses larmes avec ses bras nus pour qu'Alcide ne vît pas qu'elle avait pleuré et fit promettre à Antonin qu'avant de s'en aller, il entrerait dans la loge, essaierait de confesser le chagrin de l'ancien directeur de l'Opéra-Comique qu'on avait connu si gai, si causant. « Je vous le promets, madame Alcide, » dit le brave garçon déjà dans l'escalier. Il se pencha sur la rampe pour demander « Est-ce que mon frère est chez lui ?»« Au fait, j'y pense. Monsieur Raymond n'est pas encore là, mais madame vient de rentrer. »« Madame ?» Il fut sur le point de redescendre et d'entrer dans la loge pour s'informer, savoir le genre de femme qu'il allait trouver chez Raymond. Une honte le retint et la crainte d'interminables explications. Il le verrait bien, après tout, quelle sorte de femme avait pris le nom et le rang de madame dans la maison de l'aîné. Arrivé au quatrième étage, il s'approcha de la porte, écouta avant de sonner, très ému. Au-dedans, quelqu'un guettait comme lui, qu'il avait entendu marcher, car la porte s'ouvrit aussitôt, doucement. « Antonin ! Geneviève ! » Elle avait son chapeau, son manteau. Toujours la même, très jolie, seulement encore plus pâle. Peut-être le gaz de l'escalier ou la surprise de le voir là, subitement, au lieu de Raymond qu'elle attendait. « J'avais cru reconnaître son pas, figure-toi, mon petit Tonin. Mais entre, entre donc, ne reste pas là !» Il lui avait pris sa main toute gantée et, la serrant avec effusion, dit très bas dans l'antichambre avant d'entrer « Oh, que je suis content de te voir ici, Geneviève. Est-ce que tu viens souvent ? » ?»« Très souvent. » Lui, plus bas encore. « Alors, tu la connais, cette personne, cette femme, avec laquelle, enfin, n'est-ce pas, celle qu'on appelle madame ?» D'un accent ingénu et navré, Geneviève lui répondit « Mais c'est moi, madame !» Ah, ceux qui sentent profondément ne meurent pas qu'une fois dans la vie. Songez à ce que la tantine lui représentait, toute la femme, un peu la mère, un peu la sœur, quelque chose de plus encore. Depuis qu'il y voyait, depuis qu'il respirait, oh, jamais pour lui seul, pas un bonheur dans la maison, pas une espérance qui ne lui vînt de Geneviève, qui n'ait eu son joli visage. Elle était pour lui la Madone de Fourvière et toutes les médailles de Dinah et tous les romans de Madame de Lignes. Maintenant, voilà ce qu'il retrouvait. Assis dans le salon à côté d'elle, son premier mot fut l'explosion de toutes ses pensées. « Mais enfin, pourquoi ne t'a-t-il pas épousée ?» De cet air raisonnable et doux qui ne la quittait jamais, elle lui dit ce qui les avait empêchés de se marier. Raymond ne le pouvait pas, avec sa sœur et sa mère, à faire vivre. Déjà un ménage sur les bras, il n'avait pas le droit d'en prendre un autre. Il s'y serait décidé, pourtant. C'est elle qui n'avait pas voulu, à aucun prix. « Pauvre ami !» murmura Tonin, frôlant d'une caresse respectueuse la main qu'il tenait toujours. Dehors, le vent galopait sur le balcon, la neige crissait contre les vitres. Geneviève, souriante, reprit après un silence en lui montrant son manteau mouillé. « Tu vois, je ne me défais pas. Raymond va rentrer et nous dînons dehors comme tous les dimanches. Tu vas venir avec nous, il y compte bien. Tantôt, en revenant de Morangis, je lui ai appris ton arrivée à Paris. Et à propos de Morangis... » Sa voix s'émut, du rose lui monta aux joues. Comme ils avaient tous été bons et généreux de laisser croire au vieux père qu'elle passait sa vie chez Casta, qu'elle travaillait avec elle à son dispensaire. Que serait-il arrivé sans cela? Elle n'osait pas y songer. Mais, ma Geneviève, il avait une pudeur à présent à l'appeler Tantine. Elle est bien précaire, cette histoire-là. Pierre Isoard vit trop près de vous, j'ai peur qu'il ne découvre un jour ou l'autre. Il est vrai que ni maman ni Sorette ne se doutent de rien depuis le temps. Que moi-même, quand j'ai su que mon frère avait chez lui... Enfin, n'est-ce pas, une madame... Tu as pensé à toutes les femmes, excepté à Tantine, mon pauvre petit. Il baissa la tête, avançant sa bonne lippe, mais se redressa presque aussitôt. Avant tout, il faudrait prévenir Sophie pour le cas où elle rencontrerait ton père. Vous ne vous voyez plus, je crois. » Oh non ! Fit Geneviève avec un accent de révolte. Elle a été trop méchante, trop injuste pour Raymond. Tu sais ce dont elle l'accusait, dont elle l'accuse encore ? Il lui fit signe qu'il le savait. « Mais tu n'as pas pu y croire, toi, mon petit !» Après une hésitation, il avoua avoir douté un moment. Ces mensualités régulières que l'aîné apportait à la maison, sans en expliquer la provenance, cette liaison mystérieuse, une femme installée chez lui et l'empêchant de recevoir sa mère, sa sœur, surtout après l'aventure de Mauglas, toutes les suppositions étaient possibles. C'est seulement quand je t'ai vue droite devant la porte que je me suis dit « Elle est là, elle vient chez lui, plus rien à craindre, nous sommes sauvés. » On entendit Raymond qui arrivait et le ferraillement d'une discussion de jeunesse dans l'antichambre. Geneviève s'était levée. « Aime ton frère comme tu l'as toujours aimé, mon petit Tonin, » dit-elle tout bas. « Il est bon, il a l'âme fière, incapable de quelque chose de mal. L'argent qu'il dépense pour lui, pour sa famille, est de l'argent bien acquis. Ce sont des avances faites à son intelligence, à son travail. Sois tranquille. » Le grand frère entrait, présentait son petit électricien aux deux camarades que lui-même amenait. Un maladif et long jeune homme, les yeux caves, le dos en arc, auteur d'un petit traité de psychologie tout suant de venin intitulé « Ma méchanceté ». L'autre, un gros homme sans âge, un fort mangeur, aux larges yeux, suiveur et confident de grandes et petites vedettes, un de ces accompagnateurs de gens connus, de ces donneurs de bras de profession qui vous demandent très sérieusement si vous avez un côté de préférence. Ces messieurs faisaient partie de la vorace et, comme tels, vêtus avec la plus grande recherche, cols à la vendique, longues cravates mordorées, ils miraient leurs souliers vernis dans la soie de leur haut de forme et protestaient par le romantisme néo-chrétien de leurs idées, de leurs gilets, de leurs coiffures, contre la bohème naturaliste et tous les peintres, psychologues ou non, de la vie plate. Pourtant, leur dîner en pique-nique du dimanche, ce qu'ils appelaient le chou rouge, robuste étuvé de choux et de haricots cuits au lard pendant un jour et une nuit, qui les réunissait chaque semaine au premier étage d'une antique maison de la rue des Poitevins, à la rampe de vieux fer forgé, au large escalier de dalles noires, pleine du souvenir de Valais et de Courbet, ce fameux dîner n'avait rien de romantique, fleurait plutôt une forte odeur de réalité. Après le chou rouge, que Raymond avait présidé ce soir-là et arrosé de quelques bouteilles de vin mousseux en l'honneur d'une famille française, la bande quitta la table pour gagner, sous la neige, par petits groupes discutants, pontifiants, la brasserie du boulevard Saint-Michel où la vorace tenait ses assises, dans une salle du fond ornée d'une estrade et d'un piano. Pendant la route, Antonin, qui venait le dernier avec Geneviève abrité sous son parapluie, entendit un des jeunes voraces marchant devant eux dire à son compagnon « Saint-Bollard a amené son dévouement. Il n'y aura pas le plus petit mot pour rire. » Malgré ses habitudes ouvrières, les durs calus qu'à la longue l'atelier avait faits à sa nature fine et délicate, Tonin se sentit blessé dans son tendre respect pour leur ami et comprit, comme deux ou trois fois pendant le dîner, que Raymond n'aurait pas dû l'amener avec lui, que sa place n'était pas là. Quelques-uns de ces jeunes gens s'y trouvaient avec leur maîtresse, des actrices de petit théâtre, des demoiselles du conservatoire émancipé. D'autres invitaient à dîner au Chou Rouge une célèbre diseuse dont on faisait honneur ensuite à la séance. Ces personnes se parlaient peu entre elles, se donnaient des « madames » et des « chères madames », comme au grand foyer de la Comédie-Française. Mais à des coins d'œil et de bouche, on les devinait de la même famille. Sur tout ce kaolin, il y avait une éraillure, un coup d'ongle uniforme dont Geneviève seule n'était pas atteinte. On la sentait d'une autre patte. D'où l'ironie de cette phrase « Saint-Bollard a amené son dévouement ». Oh, bien sûr qu'il n'aurait pas dû l'amener. Toute la soirée se passa à faire de la musique, à dire des vers. Musique de joueurs de guimbarde que le musicien est seul à entendre et à comprendre, vers qui ne riment pas et qui semblent une traduction d'auteurs étrangers très difficile. Puis une discussion s'éleva sur le roman vériste et la famille française. Vérisme, naturalisme, n'était-ce pas toujours le même fumier ? Fini le roman de l'homme et de la femme, aussi ennuyeux à le raconter qu'à le vivre. Il faudrait essayer le roman du chien. Comme ils sont méchants, un livre qui lui a coûté tant de mal. Enfin, n'est-ce pas ? Le pauvre cadet, le cœur gros, parlait tout bas à Geneviève, assise à côté de lui, dans un coin du café. Oui, tu as raison, ils sont méchants. Il semble qu'ils s'empoisonnent à boire de la mauvaise encre. Ce sont leurs livres qui les dessèchent. Ils en ont trop lu et trop jeunes. Ils savent trop de choses. Et puis, l'âpreté des concours, l'ambition d'être premier, dans la vie comme au lycée, de marcher sur la tête des autres, de tout écraser. Antonin sourit tristement. Alors, Tantine, je remercie mon pauvre père de ne m'avoir pas fait donner d'instruction, puisqu'elle rend les hommes féroces. Geneviève protesta. Non, mon petit, le savoir n'a jamais rendu l'homme méchant. Mais l'enfant que l'existence n'a pas encore assoupli, assagi, peut, de ce qu'il a appris, faire un mauvais emploi. C'est ce qui arrive à notre Raymond. Il a le cœur tendre et il vient d'écrire un livre bien cruel. Il tressaillit. Depuis des heures qu'ils étaient ensemble, ils avaient évité d'en parler du roman de l'aîné, comme d'un sujet pénible, dangereux. Oui, un livre qui nous a tous fait pleurer, ajouta-t-elle avec l'accent profond que sa sincérité donnait à toutes ses paroles. Il allait lui répondre, mais Raymond, un journal déployé à la main, s'approcha d'eux, très ému, les lèvres blanches. Une critique féroce de son livre, sans doute. Il se pencha vers Geneviève et, tout vibrant, « Je t'en prie, Madame Naz va chanter le centaure et les tourbillons célestes. Approche-toi, n'aie pas l'air de bouder. » Elle obéit, quitta la table sans un mot. Et lui, tout de suite, posé devant son frère le journal qu'il tenait, le souligna d'un coup d'ongle et de quelques paroles à voix basse. « Je n'ai pas voulu t'en parler devant elle à cause de ce nom de Marquès qui la triste toujours. Mais lis ça aux dernières nouvelles. » Tonin, bougeant à peine les lèvres, parcourut l'entrefilet suivant. Un affreux malheur vient de frapper le président du conseil et sa famille. Mademoiselle Florence Marquès, la belle-fille de M. Valfond, est morte subitement cet après-midi au ministère en pleine santé. Elle avait à peine 20 ans. « Ils m'amusent, ces gamins, à nous appeler les peintres de la vie plate, » murmura le jeune romancier vériste. « Crois-tu qu'il y en a du drame et du mystère dans ce simple fait divers ?